Ça vaut le détour.
Bonjour, bienvenue à Ça vaut le détour, édition du lundi 15 février 2016. Bonjour, ici Maxime Despomerleau. Très heureuse de vous rejoindre une fois de plus pour une nouvelle édition de Ça vaut le détour. On commence la semaine en beauté. Je vous rappelle que nous sommes en direct tous les lundis, mardis et mercredis dès midi. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment Twitter avec le mot-clic CVLD pour Ça vaut le détour ou @canal barre de soulignement M. Vous pouvez nous soumettre des sujets d'actualité qui vous touchent ou tout simplement commenter sur les propos de nos invités. Aujourd'hui à l'émission, on parlera notamment de Triologie, une initiative pour favoriser l'offre de logements adaptés. Pierre Lafontaine, agent de concertation à la table de concertation régionale des associations de personnes handicapées de La Naudière, nous en dit davantage à ce sujet. C'est la première chronique de santé et sexualité Sexy Able de Vie Autonome Montréal. Marianne Rodrigue, stagiaire en sexologie, viendra nous parler de rencontres en ligne. On poursuit toujours dans la lignée de la Saint-Valentin qui était hier. C'est la Journée internationale des maladies rares le 29 février prochain. 2016 étant une année bissextile, cette date particulière est réservée pour souligner les maladies rares et les maladies orphelines. Ce sera donc la première chronique du regroupement québécois des maladies orphelines avec Gayle Ouellet, présidente et directrice générale. On entend de plus en plus parler dans les médias des lacunes dans l'accessibilité des transports en commun. S'ajoute à cela la dénonciation de nombreuses failles dans le fonctionnement et dans l'offre du transport adapté. Une partie des problèmes découle du manque de financement. Le 9 février dernier, une pétition réclamant un meilleur financement des services de transport adapté aux personnes handicapées a été déposée par le député de Bourget, M. Makakoto, à l'Assemblée nationale. On revient sur les demandes de la pétition avec Mme Martine Ouellet, députée de Vachon et porte-parole en matière de transport pour le Parti québécois. Bonjour, Mme Ouellet.
Bonjour, Mme Despomerleau.
Merci d'être avec nous aujourd'hui.
Ça fait plaisir.
Tout d'abord, on va faire en fait une remise en contexte de cette pétition qui a été déposée la semaine dernière à l'Assemblée nationale.
Oui, mais en fait, c'est une pétition qui était... comme vous l'avez mentionné, parrainé par mon collègue Makakoto, mais qui a été initié par la RUTAC et Mme Rosanne Couture, donc pour dénoncer le fait qu'il n'y ait pas d'augmentation, premièrement reliée à l'inflation, mais reliée aussi au fait qu'à chaque année, il y a une augmentation de 5 % de la clientèle qui veulent utiliser le transport adapté, et alors que les budgets sont complètement gelés et même l'année passée avait subi une baisse. Donc, il y a un manque de financement criant et ça, ben ça a des conséquences. Même si le gouvernement libéral du PLQ essaie de nous dire, ben oui, on fait des compressions, mais ça n'affecte pas les services. Ce n'est pas vrai, ça l'affecte les services. Et là, ben ce sont les transports pour aller à l'école, les transports pour les loisirs qui peuvent être affectés. C'est sûr qu'on les différents organismes essaient de prioriser les transports pour les soins médicaux qui sont une priorité, mais sinon, c'est sûr que ça a un impact. Premièrement, le fait que ces budgets-là, depuis une quinzaine d'années, n'aient pas subi d'augmentation alors que la clientèle augmente d'année en année d'à peu près 5 %. Mm-hmm. Mais deuxièmement, le PLQ a coupé les subventions pour adapter des voitures, des taxis pour le transport adapté. C'était avant ça 20 000 qui étaient disponibles et maintenant, ils ont baissé à 15 000. Et donc, vous savez que si les taxis ne s'adaptent... Puis, ils ont suspendu pendant une longue période, ils ont mis un moratoire. Donc, s'il n'y a pas de taxi qui se transforme, mais à ce moment-là, c'est encore l'offre de taxi adapté qui diminue et ça complexifie d'autant la possibilité pour les gens handicapés de pouvoir avoir du transport adapté.
Justement, on parle d'une augmentation de 5 % de la clientèle. C'est déjà 100 000 personnes au Québec qui sont admises dans un service de transport adapté dans différentes municipalités, dans différentes MRC. Les besoins, on l'a dit, la priorité est sur les transports pour avoir des soins de santé, mais il y a aussi parfois même des lacunes pour aller à l'école, aller au travail, ça devient compliqué. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là pour s'assurer d'un minimum de services?
Bien, écoutez, je pense que c'est assez simple. Il faut vous donner du financement. Il faut ajouter du financement. J'ai rencontré des associations du Saguenay-Lac-Saint-Jean et d'ailleurs au Québec, et ils me le disent toutes, que s'ils n'ont pas des moyens supplémentaires, ils essaient de faire des miracles avec les enveloppes qui rapetissent d'année en année et les besoins qui augmentent. Mais à un moment donné, il y a des limites à ce que les miracles peuvent faire et ça prend du financement supplémentaire. Et moi, je pense que c'est un bon investissement. Pourquoi? Parce que le transport adapté permet aussi un maintien à domicile. Et on sait très bien que le maintien à domicile, c'est ce que les gens souhaitent, rester chez eux le plus longtemps possible, mais c'est aussi, et c'est une bonne nouvelle, ce qui coûte le moins cher à l'État. Mm-hmm. Ça coûte beaucoup moins cher le maintien à domicile que les CHSLD ou sinon l'hôpital, et c'est dans cet ordre-là. Donc, on a tout avantage à financer pour le maintien à domicile parce qu'on gagne avec des coûts évités en CHSLD ou à l'hôpital. Donc, le but de la pétition qui était signée par 2561 pétitionnaires, c'est de demander au gouvernement libéral de réinvestir dans le transport adapté dans les deux programmes, soit celui là qui est actuellement 90 millions pour financer les différents organismes qui offrent du transport adapté. Et le deuxième programme, c'est de pouvoir subventionner les voitures qui veulent se transformer en transport adapté. Mais la pétition demande aussi d'aller plus loin. Il y a mon collègue qui est à l'époque ministre des Transports et des Affaires municipales, Sylvain Gaudreau, qui avait déposé la politique de mobilité durable dans laquelle il y avait une place intéressante qui était faite pour le transport adapté. Et cette politique-là, malheureusement, a été tablettée par le PLQ. Donc, les pétitionnaires demandent également qu'il y ait une vision beaucoup plus globale sur l'évolution pour le transport adapté avec le vieillissement de la population. Et ce vieillissement-là s'accélère. Donc, ça veut dire que l'augmentation de la clientèle pour les prochaines années pour le transport adapté va être très importante.
Justement, cette stratégie nationale de mobilité durable que vous mentionnez, c'était dans une optique d'inclusion sociale. On sait qu'aujourd'hui, en fait, pour avoir une vie active, la vie active est mesurée selon la mobilité. Selon la mobilité des gens, c'est pourquoi les transports prennent une grande importance, particulièrement en milieu urbain. On parle beaucoup de transports en commun. Du cocktail des transports, même, on en faisait mention, à tout le monde en parle hier. On sait quelque chose qui est fréquent sur les tribunes. Qu'est-ce qui explique, selon vous, ce manque dans spécifiquement le réseau du transport adapté, alors qu'on sait qu'il y a une clientèle captive et qui n'a que ce moyen-là pour se déplacer parfois?
Bien, je vous dirais que c'est une question de volonté politique. Parce que de l'argent, il y en a au gouvernement, parce que souvent, il nous dit, ben, il n'y a pas d'argent, puis c'est le temps des compressions. Mais moi, quand je vois tous les salaires, les augmentations de salaire qui sont accordées aux médecins, puis malgré les augmentations de salaire faramineuses qu'ils ont reçues, ils ont quand même une clause remorque avec ce qui a été négocié avec la fonction publique. C'est assez, je vous dirais même indécent, là, rendu à ce point-là. Et donc, de l'argent, il y en a. Il s'agit de prioriser là où on pense que ça a le plus d'impact. Et ça, c'est de la volonté politique.
À long terme, est-ce que, là, on parle d'investissement, notamment la pétition fait vraiment référence à un investissement dans le transport adapté. Par contre, est-ce qu'on peut penser qu'investir dans une meilleure accessibilité du réseau de transport en commun régulier pourrait aussi aider, en fait, à pallier au transport adapté, quand il faut les voir comme deux moyens de transport complémentaires, finalement?
Bien, tout à fait. Et vous avez dit le bon mot, complémentaire. Je pense que, oui, si d'essayer de rendre accessible de plus en plus le transport en commun, entre guillemets, régulier, et le transport adapté vient pallier à ce qui ne pourra pas être fourni par le transport en commun, transport collectif régulier.
Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez dans vos orientations en tant que porte-parole pour les transports du côté du Parti québécois?
Bien oui, tout à fait, parce que c'est en ligne avec ce qu'avait préparé mon collègue Sylvain Gaudreau, donc où cette vision-là était présente.
En terminant, Madame Ouellette, quel est votre message à lancer à la fois à nos auditeurs qui proviennent beaucoup du milieu associatif, plusieurs utilisateurs du transport adapté nous écoutent, mais à la fois aussi aux instances gouvernementales. Qu'est-ce que vous avez à leur dire pour leur faire prendre conscience de l'importance d'un réinvestissement dans le transport adapté?
Bien, ça va être deux messages. Le premier message au gouvernement, c'est de lui dire c'est important de pouvoir investir en transport adapté. C'est une solution qui, au bout du compte, nous coûte moins cher que de que les gens soient, par exemple, dans le CHSLD ou à l'hôpital. Donc, le maintien à domicile, c'est extrêmement important. Et pour que ces gens-là, les personnes qui utilisent les services, puissent continuer leurs activités, contribuer à la société, parce qu'il y a une contribution importante qu'ils peuvent faire à la société, mais il faut qu'ils puissent se déplacer. Mm-hmm. Donc, donc, c'est du développement économique. Hein? C'est pas juste une mesure sociale, entre guillemets, c'est aussi du développement économique parce qu'il y a une contribution à apporter, que ce soit en allant à l'école, donc pour le futur, ou pour le travail. Donc, ça, c'est le message au niveau du gouvernement. Et je vous dirais, au niveau des personnes qui veulent utiliser le transport adapté pour les personnes à mobilité réduite, bien, faites-le savoir, je dirais, à vos députés, particulièrement si votre député est du Parti libéral. Parce que après ça, le message peut se répercuter à l'intérieur de leur caucus et se répercuter jusqu'au ministre des Transports et que leurs députés ne se gênent pas pour faire connaître là au ministre des Transports, M. Daou, qui est un député libéral et comme c'est un gouvernement libéral, le besoin. Donc, que les gens fassent connaître à leurs députés parce que je pense que ça fait une différence.
Merci beaucoup. Martine Ouellette, vous êtes députée de Vachon et porte-parole en matière de transport pour le Parti québécois. Merci d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui.
C'est un plaisir.
Et si les heures s'écoulent encore pour moi qui me lève au matin, si le soleil épouse mon corps, je ne remercie personne. Personne ne vivre un jour de plus, de me gaspiller à temps perdu. Me perdre si l'idée m'en vient, sans anxiété ni pharmacien. Oh, tant que j'aurai ce cœur qui bat, pour tout ce qui est autour de moi. C'est comme de la béatitude pour tout ce qui est autour de moi. Ça fait de mon cœur un cœur qui bat. C'est comme de la béatitude. Et puis j'ai pleuré ce petit moi qui m'a quitté sans me saluer. Et puis du monde quel qu'il soit, qui en était l'amoureux dévoué. J'ai vu là tout mon désordre, tous les effets de mon tournis. Là où soi-même on se saborde, je sais que tu comprends mon ami. Oh, tant que j'aurai ce cœur qui bat pour tout ce qui est autour de moi. Ça fait de mon cœur un cœur qui bat. C'est comme de la béatitude. De la béatitude, tout ce qui est autour de moi.
Danielle Bélanger qui nous chante sa béatitude, tirée de son album Chic de ville, paru en 2012. On continue notre programme à Ça vaut le détour et on parle d'une initiative dans la Naudière. On va du côté de la Naudière aujourd'hui pour parler du programme Trio Logis qui favorise l'offre de logements adaptés. On sait que c'est une des problématiques qui est criante dans toutes les régions du Québec. Et donc, on regarde un peu du côté de la Naudière, qu'est-ce qui se passe. Monsieur Pierre Lafontaine, agent de concertation à la table de concertation régionale des associations de personnes handicapées de la Naudière. Bonjour.
Bonjour, Madame Paul Merleau.
Donc, tout d'abord, présentez-nous ce projet Trio Logis.
Le projet Trio Logis, dans le fond, c'est un projet qui a été initié par la table de concertation en collaboration avec différents partenaires du milieu, dont on avait mis en place un comité sur l'hébergement. C'est un projet qui a été financé par le Centre intégré de santé et services sociaux, anciennement l'Agence de la santé. C'est un projet qui visait, dans le fond, à faire du pairage entre des personnes avec des besoins de soutien à domicile et des propriétaires ou des entrepreneurs, des gestionnaires qui étaient intéressés, dans le fond, à ouvrir une plus large gamme de logements sur le territoire de la Naudière. Donc, on a commencé ça en 2014 en faisant un portrait de l'hébergement, de ce qui existait ici en région. Et par la suite, on est allé avec un projet c'est un projet concerté qui a été mis en place de façon plus pointue de pairage entre des usagers et des propriétaires. Donc, ça visait tant la découverte de logements déjà accessibles ou adaptés que des logements qui étaient adaptables. Mm-hmm. Donc, c'est une offre assez large là, qui a été réalisée ici en région.
Et quelle lacune, justement, le projet Trio Logis vient-il combler dans l'offre de logements?
Entre autres, ce qu'on déterminait, c'est qu'il y avait des besoins de décentralisation, dans le fond, dans la communauté, de façon à rendre l'expérience des usagers plus normalisante, plus intégrante dans le milieu. Et on voulait aussi compenser l'insuffisance de soutien à domicile qui existait. Donc, avec les sommes qui ont été rendues disponibles, on pouvait se permettre d'optimiser, dans le fond, tant l'offre que les services de soutien. Donc, tant en collaboration avec des ressources communautaires du milieu, avec des coopératives, des entreprises d'économie sociale en soutien à domicile. Donc, on venait comme centraliser l'ensemble de l'offre pour permettre aux personnes, dans le fond, de s'intégrer en logement plus facilement et plus rapidement.
Et comment fonctionne le programme? Est-ce que vous fournissez une banque de locataires potentiels à un propriétaire ou vice-versa?
Je dirais que ça va dans les deux sens. Tant qu'on a autant répertorié des logements adaptés ou adaptables sur le territoire que des personnes qui étaient en besoin. Puis souvent, les personnes vont nous appeler, soit à la table de concertation ici ou dans différentes ressources, proviennent de l'extérieur de la région, veulent venir dans la région, se demandent où se loger. Donc, on a tant une banque d'usagers potentiels qu'une banque de propriétaires, de gestionnaires ou même de contracteurs. Donc, en faisant ça dans les deux sens, ça permettait, dans le fond, beaucoup d'optimiser, dans le fond, les services de référence.
Est-ce qu'on est en mesure de dresser un portrait un peu du type de personnes qui viennent demander les services de Trio Logis?
Bien, disons que pour être admissible à Trio Logis, il y a certains critères, naturellement. Il faut que la personne requiert un minimum 10 heures de soins à domicile, de services à domicile par semaine. De 10 heures, le maximum qu'on donne à Trio Logis, c'est 25 heures semaine. Des personnes âgées de 18 à 65 ans. Donc, c'est le profil des personnes qui seraient admissibles à Trio Logis.
Et vous avez eu une vingtaine de demandes en 2015.
Il y a eu plusieurs demandes, 20 personnes qui ont été rencontrées, dans le fond, qui ont été évaluées. Mm-hmm. Actuellement, il y a 6 personnes qui ont été intégrées en logement déjà. Et je dois dire que selon les chiffres qu'on a eus la semaine dernière ou il y a 2 semaines, la liste d'attente s'allonge. Donc, on est vraiment rendu, le service semble implanté et il est en développement déjà, puis ça fait à peine un an.
C'est quelle région est-ce que vous couvrez particulièrement?
Bon, dans le fond, le projet vise l'ensemble de la région de la Naudière, sauf que dans un premier temps, je dirais qu'on est plus concentré vers le nord de la région, périphérie du Grand Joliette. Il y a des logements là actuellement à Joliette, à La Valtrie, à Saint-Lin, à Saint-Calix. Donc, il y a quand même, on développe le plus large possible, mais éventuellement, ça va s'étendre à l'ensemble de la région. Le projet a été pensé pour desservir l'ensemble de la région. Mais c'est certain que dans un premier temps, avec les moyens qu'on a, on y va étape par étape.
Vous parlez tout de même de liste d'attente bon, qui s'allonge oui. plus on connaît le service. Par contre, ça bat des records au niveau de, du placement par rapport à beaucoup d'autres listes d'attente. Qu'est-ce qui explique le succès de l'initiative?
Moi, je pense que le succès de l'initiative s'explique d'abord et avant tout par l'ancrage dans le milieu, par la concertation qui est alentour de ce projet-là. Souvent, il y a des programmes qui sont mis en place par de façon centralisée. Nous, avec le comité d'hébergement qu'on a mis en place, ça nous permet d'être branchés avec plusieurs ressources de l'ensemble du territoire. Ça, je pense que c'est déjà un gage de réussite puis de popularité. Parce que on sait que déjà, les personnes qui sont en besoin de soutien à domicile sont déjà en lien avec les associations du territoire, avec les organismes du milieu. Donc ça, ça nous permet, dans le fond, un rayonnement par l'intérieur, je dirais, plutôt que par l'extérieur.
Mm-hmm. Est-ce que Triologie finance l'adaptation des logements?
Triologie ne finance pas l'adaptation des logements comme tel, c'est la Société d'habitation du Québec. Par mm-hmm. contre, Triologie accompagne dans toutes les étapes du développement des logements, tant les propriétaires, les gestionnaires ou les contracteurs, que les personnes elles-mêmes. Donc, on peut aller même jusqu'à faire des demandes de financement du début à la fin. Donc, les propriétaires ne sont pas démunis, ça ne devient pas une charge supplémentaire à leurs travaux habituels. Donc, je pense que c'est là, entre autres, que le projet Triologie se démarque vraiment des initiatives qui étaient déjà existantes ailleurs. Parce qu'il faut mentionner que le projet Triologie, c'est unique au Québec.
Mm-hmm, oui, puis on espère que ça donne l'idée à d'autres de faire la même initiative dans leur région.
C'est aussi ce que nous autres, on aimerait, parce que dans le fond, quand un projet fonctionne à une place, pourquoi pas l'exporter ailleurs? Le modèle est existant, et si le modèle est gagnant, pourquoi pas se l'approprier?
Mm-hmm. Quel est l'avantage pour les propriétaires?
L'avantage pour les propriétaires, il y a entre autres, moi je mentionnais tantôt l'accompagnement à partir pour faire adapter un logement. Il y a aussi le fait que les personnes, on les a répertoriées, donc c'est des personnes qui sont prêtes à entrer dans les logements. Je pense qu'il y a ce côté-là. Il y a aussi dans l'accompagnement, vous savez, l'adaptation d'un domicile, parfois on a les meilleures intentions du monde, mais on le fait un peu n'importe comment, ce qui fait que souvent on pense qu'un logement est adapté, mais dans les faits, il ne l'est pas. Donc, ça évite aux propriétaires, dans le fond, d'encourir des coûts pour rien et de faire des travaux qui ne seraient pas nécessaires. Donc, je pense que c'est beaucoup plus l'information. Puis on essaie aussi de rendre ça accessible dans la... C'est pas dramatique, c'est je pense qu'on offre un service plus large et pour les propriétaires, c'est définitivement un avantage aussi.
Et quand on parle de propriétaires, à quel type d'habitation on fait référence? Est-ce que c'est autant maison, le bloc de logement, condo?
Je dirais qu'actuellement, c'est plus des logements. Par contre, il n'y a pas de limite. Ça peut être plus élargi à des maisons ou encore à des condos. Par contre, il y a toute la question de l'accessibilité financière aussi. Donc, mm-hmm. c'est plus des logements. Actuellement, les logements qu'on a qui font partie du projet, c'est plus des 3,5, des 4,5 pour des personnes seules souvent ou une personne qui va vivre avec son enfant ou un couple. Donc, c'est plus dans ce sens-là là, pour l'instant, là, le développement s'est fait plus à ce niveau-là. Par contre, il n'y aurait pas de limite au type d'habitation qui serait disponible.
Puis, pour les propriétaires qui seraient intéressés à participer au programme, comment on prend contact avec vous?
À ce moment-là, nous, la table de concertation, on a dans le fond mis en place le projet pilote. Ça a été transféré aux maisons d'à côté qui offraient déjà de l'hébergement communautaire dans le milieu ici à Joliette. Donc, on téléphone directement aux maisons d'à côté au 450-271-6658. Ou encore, on peut aussi les rejoindre, là, rejoindre Triologie à l'adresse courriel trio, T-R-I-O, trait d'union, logis, L-O-G-I-S, à commercialoutlook.com.
Monsieur Lafontaine, oui. Vous disiez que c'était, entre autres, un projet pilote,
oui.
Donc mis en place en 2014. C'est tout récent. Est-ce que vous êtes assujetti à des subventions? Est-ce qu'il y a un risque qu'on voit cette initiative-là s'éteindre ou, au contraire, on y va pour du long terme?
Écoutez, on a eu une rencontre la semaine dernière avec des gens du Centre intégré santé et services sociaux et je pense que tant eux que nous, on est victimes de notre succès. dans la mesure où c'était quand même une somme de 180 000 $ par année, plus ou moins, là, qui avait été octroyée pour la phase initiale d'implantation. Mais ces sommes-là devraient devenir récurrentes. Dans le fond, c'est en démarche. Donc, ça devrait être un projet qui dure dans le temps. Et même que les discussions que j'ai eues avec des partenaires du Centre intégré de santé et de services sociaux mentionnaient qu'il y avait peut-être possibilité même qu'on développe davantage. Alors, je pense que quand un projet est gagnant, tous les partenaires, peu importe que ce soit gouvernemental, que le milieu lui-même, on est gagnant à développer davantage.
En terminant, si vous aviez des conseils à donner à d'autres organismes ou d'autres tables de concertation dans d'autres régions qui voudraient démarrer ce projet-là, ça serait lesquels?
Je pense que la formule gagnante repose d'abord et avant tout sur la concertation. Donc, si jamais il y avait des personnes dans d'autres territoires qui voudraient développer un projet du genre, je dirais commencer par asseoir des partenaires qui couvrent l'ensemble de votre territoire ensemble pour être capable de le développer en fonction des besoins réels des différents milieux. Parce qu'on sait que même à l'intérieur d'une région, peu importe le territoire, c'est différent d'une MRC à l'autre. Donc, je pense que le gage de réussite, c'est vraiment, ça repose vraiment sur la concertation.
Pierre Lafontaine, vous êtes agent de concertation à la table de concertation régionale des associations de personnes handicapées de Lanaudière. Merci beaucoup d'avoir parlé aujourd'hui de cette belle initiative de triologie qui favorise l'offre de logements adaptés dans Lanaudière. Plus tard à l'émission, on reçoit Marianne Rodrigue de Vie Autonome Montréal pour leur première chronique Santé et sexualité Sexy Able. Restez avec nous.
De retour à Ça vaut le détour avec Maxime Despomerleau.
Bonjour, en ce lundi 15 février 2016, lendemain de la Saint-Valentin, donc vous avez peut-être eu des petits soupers en amoureux en fin de semaine, mais c'est un cas, on pourrait remarquer une genre de recrudescence dans, entre autres, en fait... Les restaurants sont bondés, je pense, le week-end de la Saint-Valentin, mais c'est toute l'année qu'on peut décider de chercher l'amour, qu'on peut trouver l'amour aussi. Et aujourd'hui, on parle particulièrement de ce qui est de trouver l'amour en ligne. Ce sont des outils qui sont de plus en plus utilisés. Marianne Rodrigue, vous êtes stagiaire en sexologie, vous étudiez à l'Université du Québec à Montréal et vous travaillez à l'organisme Vie Autonome Montréal.
Oui.
Bonjour.
Bonjour.
Donc, c'est cette première chronique qu'on appelle « Sexy Able ». C'est le nom de la chronique, d'une chronique mensuelle qui va revenir à Canal M à chaque mois, où on parle de santé et sexualité, parce que d'abord, vous faites déjà ces chroniques-là à Vie Autonome.
Oui, en fait, j'anime des ateliers depuis le mois de septembre chez Vie Autonome, sous le projet pilote Sexy et Bon.
Et d'où est venue l'idée de créer justement ce projet Sexy et Bon? Le nom d'abord est assez...
Approprié.
Approprié, mais évocateur aussi.
Oui, absolument. Chez Vie Autonome Montréal, on a donné des ateliers l'an passé. En fait, j'étais pas là à ce moment. Là, mais il y a eu des ateliers sur la sexualité, la vie de couple, qui ont été très populaires. Puis, mes collègues de l'époque se sentaient pas nécessairement outillés pour répondre à tous les questionnements. Et donc, ont eu l'opportunité de faire venir une stagiaire de l'UQAM. Et donc, voici, j'apparais dans l'équation. Et donc, depuis le mois de septembre, c'est ça, on fait le projet pilote Sexy et Bon. Et donc, on donne des ateliers, on crée des ressources, des infos. Pour donner l'information à nos membres, puis on fait bientôt faire des rencontres d'aide individuelle.
OK, ça va être quelque chose qui est développé, parce que pour le moment, ce sont surtout des ateliers en groupe,
oui.
En discussion, des groupes de discussion, finalement.
Oui, des groupes de discussion, aussi des rencontres un peu plus théoriques, ça dépend des sujets.
Justement, quels sont les sujets qu'on peut évoquer dans Sexy Able?
Il y a vraiment une foule de sujets. Donc, on a vu des un peu plus la sexualité 101, donc la reproduction, les ITSS, la contraception. On a parlé des tabous et des mythes qui entourent la sexualité et le handicap. La séduction, les rencontres en ligne, ensuite l'assistance sexuelle aussi. Et puis, on est en train de terminer une série d'ateliers sur l'autonomie sexuelle. Donc, on parle de dimensions de la sexualité, des relations saines et égalitaires, du consentement, etc.
Quand même, le consentement, entre autres, qui est déjà en plus dans les médias ces temps-ci. On parle beaucoup de l'amour au temps du numérique. Comment est-ce que le numérique, l'Internet, les réseaux sociaux, les sites de rencontres ont transformé cette quête de l'amour-là? Et évidemment, c'est quelque chose qui est accessible aux personnes en situation de handicap.
Oui, absolument. Les technologies, que ce soit autant les applications que l'ordinateur et Internet, facilitent l'accès à une plus grande banque, un plus grand bassin de rencontres pour tout le monde et particulièrement pour les personnes en situation de handicap.
Quel est l'avantage des sites de rencontres?
En fait, de chez nous ou à partir de notre téléphone, pas besoin de sortir ni de s'habiller. On peut donc avoir accès à un grand bassin de potentiels futurs partenaires. Ça nous permet aussi d'être un peu plus sélectif, de mettre des côtés de nous de l'avant qu'on préférerait mettre et dont particulièrement dans le cas des handicaps visibles. Donc, on peut se mettre de l'avant sans que notre handicap nous définisse au premier abord.
Mm-hmm. Est-ce que c'est une préoccupation que vous rencontrez avec les gens avec qui vous travaillez?
Lors de l'atelier, oui, la notion du dévoilement du handicap a été très importante. Je dirais que plusieurs personnes ont différentes façons de voir la chose. Certaines personnes le mettent vraiment de l'avant, se disent « c'est comme ça que je suis, je le mets de l'avant, les personnes qui viennent me voir vont le savoir en pleine connaissance de cause », tandis que d'autres personnes qui ont peut-être eu un historique un peu plus malheureux côté rejet et donc eux vont décider de le dévoiler un peu plus tard et mm-hmm. De se laisser une chance, comme ils disent.
Et justement, donc d'y aller à son rythme mm-hmm. aussi, c'est ce que permet d'une part les rencontres en ligne si on oppose ça par exemple au speed dating qui est
oui.
Qui peut être assez brutal et rapide surtout. Oui. Les sites de rencontres, c'est énormément d'utilisateurs. Réseau Contact compte 1,4 million de membres, Lavalife 1,8 million, Québec Rencontre.com 2,5 millions. C'est énorme. Est-ce qu'il y a, ce sont des sites généraux, mm-hmm. est-ce qu'il y a des sites pour les personnes en situation de handicap?
Oui, en fait, il y a des sites de rencontres spécialisés sur tout. Presque tout. Donc, presque les amoureux de la pizza, les jeux vidéo, on pourrait trouver n'importe quoi ou en partir un facilement. Donc, oui, il y a des sites spécialisés pour les personnes en situation de handicap. La majorité sont en anglais, des États-Unis ou de l'Angleterre. Quelques-uns sont en France, mais je sais qu'il y en a au moins un au Canada en français et en anglais. Par contre, il faut faire attention parce que le nombre d'abonnés est quand même assez limité. Donc, il y a moins de gens que sur les sites que vous avez mentionnés. Donc, le bassin de potentiels partenaires est un peu plus limité. Certains sites, c'est vraiment uniquement pour et par des personnes en situation de handicap. D'autres, des personnes qui sont intéressées à être avec des personnes en situation de handicap peuvent s'inscrire aussi. Et donc, ça permet d'être avec des gens qui sont ouverts à ça et donc qu'on n'a pas peur de dévoiler son handicap. Mm-hmm. Mais par contre, il faut faire attention parce qu'il y a des gens qui peuvent peut-être justement rechercher une situation d'handicap particulière.
Justement, on parle... c'est quelque chose aussi auquel vous amenez, en fait, vous sensibilisez les gens avec qui vous travaillez, de faire attention aussi à qui, avec qui on développe une relation virtuelle tout d'abord. Donc, parce qu'il y a justement des personnes qui sont particulièrement attirées par des personnes en situation d'handicap. On parle de surtout de personnes qui utilisent un fauteuil roulant ou de personnes avec des amputations. Oui. On parle c'est des « devotees ». En anglais, c'est ce mot qui est presque un mot tabou, en fait, dans la communauté.
Mm-hmm. Oui, c'est des gens qui se définissent comme étant attirés vers une situation d'handicap particulière. Certaines se disent exclusives, donc c'est vraiment, par exemple... le fauteuil qu'ils recherchent, tandis que d'autres disent, moi, écoutez, c'est comme certaines personnes préfèrent les blondes, moi, je préfère les gens en fauteuil. Et donc, ils disent, moi, c'est une attirance que j'ai. Ça veut pas dire que je vais vouloir avoir une relation sexuelle avec la personne, mais juste que ça me donne un intérêt à aller parler à cette personne-là. Donc, faut faire attention aussi, faut pas toutes les mettre dans le même paquet. Mm-hmm. Ça peut être pas nécessairement une chose positive, mais c'est pas nécessairement négatif non plus. D'ailleurs, il faut aussi faire attention, et là, pas juste quand on est en situation de handicap, mais vraiment pour tout le monde, de ne pas donner trop d'informations personnelles à des inconnus, même si ça fait 3 mois qu'on parle avec la même personne. Si on ne l'a pas encore rencontré, cette personne-là est encore potentiellement dangereuse. Je m'explique. Il y a beaucoup de fraudes sur Internet, des demandes de virement d'argent ou d'envoyer des photos dénudées ou compromettantes. Et ensuite, il peut y avoir demande d'échange d'argent contre... ne pas envoyer cette photo-là à l'employeur, par exemple.
Mm-hmm, oui, donc de faire attention sur comment est-ce qu'on dévoile son intimité corporelle aussi sur Internet. Avec ces conseils de faire attention à la fraude, faire attention avec qui on va discuter, peut-être même faire une recherche sur la personne pour... On part pas avec l'idée qu'elle a de mauvaises intentions. On part tout de même de manière positive qu'il y a un intérêt envers la personne. Mais tout de même, ce sont des risques. Quels sont les autres conseils? Quels sont les conseils, en fait, pour se préparer à une première rencontre une fois qu'on a discuté en ligne avec la personne? On peut décider de la rencontrer. Quels sont vos conseils pour passer à cette autre étape?
Oui, en fait, je conseille aux gens de rencontrer la personne quand même assez rapidement. Souvent, si on installe une dynamique en ligne pendant longtemps, c'est très dur ensuite d'en sortir. Donc, planifier ça dans un endroit public, bien entendu, avertir quelqu'un qu'on est là, prévoir son propre transport, ce qui... Une des participantes avait dit « Je suis obligée, je suis en transport adapté, donc je dois planifier mon transport », ce qui peut être une bonne chose. Comme ça, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, eh bien, vous assurez d'être capable de retourner chez vous de façon sécuritaire. Donc, laissez savoir à quelqu'un où vous êtes. Et puis...
Ça me semble des conseils sensés et des conseils de base. On parle de transport adapté, par exemple. Est-ce que toutes les autres activités, les autres aspects de logistique avec lesquels les personnes en situation de handicap doivent gérer, est-ce que ça entre en ligne de compte lorsqu'on développe une relation virtuel, par exemple, ou est-ce qu'on recherche à ce moment-là? On peut pas, par exemple, répondre difficilement « Es-tu libre ce soir? »
Oui.
Ça peut être compliqué.
Absolument. Donc, il faut être définitivement honnête avec la personne avec qui on parle et lui dire, donc, moi, il faut que ça soit planifié, il faut vraiment vérifier, il faut vraiment que tu me dises où est-ce qu'on va avant parce qu'il faut que je vérifie que ça soit accessible. Une soirée surprise, ça peut être agréable, mais quand on n'est pas capable d'entrer dans le restaurant, ça peut gâcher rapidement une soirée.
Oui. Est-ce que vous avez quelques histoires à nous révéler qui pourraient inciter les gens qui pensent à aller sur des sites de rencontres ou des belles histoires qu'on a vues émerger?
Enfin, un participant, lui, s'est fait une très bonne amie. Donc, ça ne s'est pas développé en relation amoureuse, mais lui utilise les sites de rencontre pour élargir son cercle d'amis puis faire des activités. Donc, lui, il l'utilise de façon vraiment plus sociale.
Oui, justement, il faut le dire quand même, ça, on n'est pas toujours obligé de vouloir rechercher le partenaire amoureux ou même sexuel. Ça peut être uniquement des amis, élargir son réseau, finalement. Merci beaucoup, Marianne Rodrigue.
Ça
a passé très vite, mais vous allez revenir de toute façon dans un mois nous parler d'un autre sujet lié à justement santé et sexualité des personnes en situation de handicap. Chronique Sexy Able à Canal M. Marianne Rodrigue, vous êtes stagiaire en sexologie à l'organisme Vie Autonome Montréal. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
On a fini toutes les bouteilles. On s'est vidé. On a monté la porte au sommeil. On a joué nos âmes à la cachette. On a gagné du temps. Tout pour le tout sur un plateau d'argent. Oh, éprouvons les choses. On traversera.
Rémouvons les choses, le groupe 7 jours en mai. Donc, tout nouvel album paru en 2016. On termine cette émission de Ça vaut le détour. On se penche, en fait, on profite du prétexte de 2016, une année bissextile. Donc, il y a une nouvelle petite date qui s'ajoute, qui vient nous visiter tous les 4 ans, le 29 février. Et le 29 février, qui a été nommé la Journée internationale des maladies rares. Et ça nous permet, en fait, de pointer le regard un peu plus vers ces maladies orphelines qu'on connaît moins. Et on a entre autres Gail Ouellette, présidente et directrice générale du Regroupement québécois des maladies orphelines. au bout du fil pour nous parler davantage des maladies orphelines. Bonjour.
Oui, bonjour.
Donc, tout d'abord, c'est une chronique mensuelle qui va revenir. Donc, chaque mois, on va pointer les yeux, justement, on va découvrir une nouvelle maladie qu'on connaît peut-être peu au Québec, parce qu'il y a, entre autres, peu de personnes qui vivent avec. Mais vous êtes là, entre autres, pour faire connaître ces maladies, faire connaître différentes conditions. Je vais d'abord vous laisser présenter le Regroupement québécois des maladies orphelines.
Oui, excusez-moi. Le Regroupement québécois des maladies orphelines, le RQMO, bien, c'est un regroupement d'abord d'une vingtaine d'associations de maladies rares au Québec, certaines canadiennes, puis d'individus, parce qu'il y a encore plus d'individus qui ont des maladies rares, mais qui n'ont pas d'association. Puis notre mission, c'est de donner de l'information et du soutien aux personnes qui sont aux prises avec une maladie rare, puis leurs familles, les proches aidants et même des professionnels de la santé. Alors, on a un service d'information qu'on appelle le Centre d'information et de ressources sur les maladies rares. N'importe qui peut nous appeler ou nous écrire, puis une professionnelle répond aux demandes qui sont faites. Aussi, ce qu'on veut, c'est faire partager, circuler de l'information sur le domaine des maladies rares en général, sensibiliser le public et le milieu médical par rapport aux maladies rares. Puis enfin, on veut faire avancer les connaissances sur ces maladies-là en favorisant des échanges entre les personnes et les familles qui sont aux prises avec ces maladies-là et des chercheurs pour faire avancer la recherche.
Mm-hmm. On va commencer d'abord par démystifier un peu. Qu'est-ce qu'une maladie orpheline exactement?
Oui, bien, une maladie orpheline, bien, habituellement, c'est les maladies rares qu'on appelle comme ça. Donc, une maladie rare, c'est défini comme une maladie qui touche moins de une personne sur 2000 dans la population. Puis, le terme orphelin est arrivé là, dans les années 80. On voulait, spécifiquement, ça voulait dire une maladie rare pour laquelle il n'y avait pas de traitement. Donc, on disait des maladies orphelines sont orphelines de traitement. Aujourd'hui, le terme est utilisé plus largement là, pour dire que les maladies rares sont orphelines à différents niveaux là, de recherche, de traitement, de diagnostic, de service, etc.
Et donc, si on se rend sur le site du RQMO, combien de maladies est-ce que vous représentez?
Bien, il y a de 7000 à 8000 maladies rares là, à travers le monde. Évidemment qu'elles ne sont pas toutes ici au Québec ou au Canada même, mais il peut y en avoir des milliers. C'est n'importe qui pourrait développer une de ces maladies-là ici.
Parce qu'elles ne sont pas toujours de naissance, donc ça peut être quelque chose qui va se développer au courant de la vie.
Oui, en plus, autour de 60% ou plus, là, c'est les enfants qui sont affectés, mais il y a des maladies, ça peut être à n'importe quel âge, puis il y a des maladies que c'est plus, plus tard dans la vie.
Le regroupement a été fondé en 2010. Mm-hmm. Donc, vous êtes dans votre sixième année de vie. Quelles activités vous tenez?
Habituellement, on a un colloque annuel à l'automne, mais c'est toujours la Journée internationale des maladies rares là, qui nous occupe à ce temps-ci. Alors, on a une activité le 29 février, donc qui va être une première, le Salon de la rareté cette année, où des gens vont pouvoir présenter, comme dans un congrès scientifique, des affiches avec leur maladie et les associations pour avoir des tables et des kiosques. Il y aura des chercheurs aussi qui vont présenter cette maladie rare. Sinon, le reste de l'année, là, on essaie de faire des activités de sensibilisation. Puis notre centre d'information est toujours ouvert pour répondre aux demandes.
Justement, ce Salon de la rareté, on le souligne, est ouvert à tous les publics. On va mettre de l'information sur la page de notre émission en terminant. Et on a quelques minutes pour pointer un regard sur une maladie orpheline, une maladie rare. Et aujourd'hui, c'est la maladie avec laquelle je vis. Oui, avec laquelle votre animatrice de Ça vaut le détour vit. J'ai dénommé le syndrome McEwen-Albright. Donc, on va en profiter. Voilà, c'est un peu spécial. Un petit segment où on parle un peu de moi. sans directement parler de moi. Donc, on va y aller tout d'abord en faisant la distinction entre une maladie et un syndrome au point de vue du mot, au point de vue de la nomenclature. Qu'est-ce que la différence?
Oui, ben le syndrome, c'est plus spécifique dans le sens que le terme maladie, dans le sens où ça veut dire un ensemble de signes puis de symptômes. Donc, habituellement, c'est une maladie qui va toucher plusieurs organes ou systèmes. Puis, le McEwen-Albright, on l'appelle un syndrome justement parce qu'il y a trois, il est défini, son diagnostic, par trois signes différents au niveau des os, au niveau de la peau, puis au niveau des hormones. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle un syndrome.
Et c'est difficile d'établir des statistiques avec les maladies rares, mais qu'est-ce qu'il y en est pour le syndrome?
Celle-là, on n'a pas de fréquence précise, vraiment. Là, ce qu'on dit, c'est que c'est entre une personne sur 100 000 à une personne sur 1 million. C'est toujours difficile avec les maladies rares d'avoir une fréquence, sauf certaines où il y a vraiment eu des études très, très précises, là, dans des bonnes études épidémiologiques dans certains pays, mais sinon. Donc, celle-là est très rare aussi. Pourquoi celle-là? En fait, des fois, elle peut être trouvée par hasard. Même les personnes peuvent ne pas avoir de symptômes. Et puis, le diagnostic peut être difficile. On le diagnostique souvent entre 5 ans et 30 ans. Donc, c'est comme beaucoup de maladies rares, là, difficile des fois à diagnostiquer. Puis, dans ce cas-là, on n'a pas des fréquences précises.
Mm-hmm. C'est une maladie dont la cause est génétique, mais pas héréditaire. On va prendre quelques secondes pour faire la distinction entre les deux.
Oui, ben d'abord, là, quand je disais que c'est une maladie qui touche les os, en fait, c'est une dysplasie fibreuse des os, qu'on appelle ça. Fait que ça arrive à cause d'un gène qu'on appelle GANS, dont le défaut là cause une protéine, la protéine GANS est modifiée, puis au lieu de faire de l'os normalement, là, c'est comme des fibres qui remplacent un peu les cellules normales de l'os. C'est pour ça qu'on appelle ça une dysplasie fibreuse des os. Puis, ce gène-là, en fait, il y a une mutation qui arrive lors de la période embryonnaire. Donc, le bébé, au début de son développement, vraiment au niveau embryon, là, il peut y avoir spontanément, par hasard comme ça, une mutation dans ce gène-là, dans une de ces cellules. Donc, c'est après, ben il y a comme le développement, une migration de ces cellules, puis ça fait ces problèmes osseux. À cause que c'est dans les cellules, ces cellules-là qu'on appelle somatiques du corps et non dans les cellules reproductrices. Donc, ça n'est pas hérité, transmis à l'autre génération. Mm-hmm. Donc, en général, la personne qui a ça, ses parents ne l'avaient pas et puis elle ne peut le transmettre à ses enfants.
Donc, c'est de naissance, mais ça ne se trouve pas. Il n'y a pas de prédisposition héréditaire desquelles même on peut regarder pour des potentiels sources ou causes. Il y a rapidement, on va passer les trois symptômes classiques pour faire le diagnostic. On parlait tout d'abord de la dysplasie fibreuse, mais il y a aussi des aspects hormonaux, notamment une puberté précoce et un autre symptôme qui touche la peau, vous disiez.
Oui, c'est ça. Puis pour terminer avec la dysplasie, là, ça peut être localisé, un os ou très, très peu. Puis c'est pour ça que des fois, c'est difficile à diagnostiquer. Mais sinon, ça peut être beaucoup d'os en même temps, ce qui rend évidemment la maladie un peu plus sévère parce que ça fait des déformations des os plus fragiles, donc fractures, déformations, douleurs aussi. Au niveau de la peau, c'est ce qu'on appelle des taches café au lait. Donc, c'est des taches particulières là, qui ont couleur café au lait. C'est pour ça qu'on les appelle comme ça. Ça, c'est quelque chose qui arrive dans d'autres maladies. Puis ça, c'est présent dans le McEwen-Albright habituellement là, après la naissance là, chez le jeune bébé. Mais ça va passer souvent comme un signe là, bénin, pas ben, important.
C'est, ça peut passer comme une tache de naissance et on va devoir abréger. Oui. Mais il y avait aussi la condition des hormonale. Donc, oui. Problèmes hormonaux. On peut souvent prendre du synthroïde comme il y a beaucoup de troubles répandus dans la population qui s'avère. C'est tout ce mix de symptômes pris un à un. C'est lorsqu'on les met ensemble qu'on peut savoir qu'il y a un diagnostic de syndrome McEwen-Albright, mais pris un à un, ça peut ressembler à plusieurs autres maladies. On va terminer là-dessus. On va vous retrouver dans un mois, Madame Gayle Ouellet, présidente et directrice générale du Regroupement québécois des maladies orphelines. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci, au revoir.
Merci. Alors, je remercie mes invités, Madame Gayle Ouellet, Madame Marianne Rodrigue de Vie Autonome Montréal, Madame Ouellet, la députée de Vachon pour le Parti québécois. Je remercie mon équipe technique, Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde, Christiane Campagna à la recherche. C'était Maxime Despomerleau. À bientôt.